infinito di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il corno si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, il naufragarmi dolce in questo mare.
Vous le connaissez presque par cœur, ce chant de Leopardi, Valeria Bruni-Tedeschi.
Tous les Italiens le connaissent par cœur. Il y a eu ce film de Martone il y a 2 ans sur Leopardi. Et en fait, bon, il est sorti en France aussi, mais en Italie, c'était comme pour les Italiens, Leopardi, c'est comme c'est dans l'inconscient collectif. C'est comme une chanson populaire. C'est aussi connu que Ne me quitte pas ou que. Donc on étudie Leopardi toute notre adolescence.
Et en 2 mots en français, c'était l'infini.
L'infini, c'est il est dans son village de Recanati. Il est sur une colline et il s'assied et devant lui il a un buisson. Et c'est parce que il a un buisson devant lui et que il ne voit pas l'horizon qu'il peut l'imaginer. Et donc il imagine l'horizon, il peut ressentir l'infini grâce au fait qu'il a quelque chose qui lui empêche de voir.
Et c'est quoi la langue italienne pour vous? C'est la langue de l'enfant?
De l'enfance, malgré le fait que je sois venue à Paris, j'ai fait l'école italienne à Paris, et donc c'est toute ma culture de... Voilà, littéraire et puis aussi ma culture de mon adolescence, mes premiers amours, mais enfin ma vie, ma famille. On était comme des Italiens à Paris, dans une petite Italie à Paris.
Et vous avez dit mon être italien est important. C'est quoi votre être italien?
C'était une phrase un peu pompeuse, mais. Je sais pas, le fait que je suis italienne, c'est important, c'est très important ce qu'on est, d'où on vient, c'est ce qui nous fait, c'est notre enfance, c'est de là où tout part notre. Et même si je parlais pas italien, ça serait essentiel. J'ai une fille d'origine sénégalaise qui. Voilà, elle parle pas spécialement Wolof, mais le Wolof est très important pour elle. Donc c'est nos racines profondes. En plus, moi, il se trouve que j'ai continué à être immergée dans ma culture italienne grâce à mon école italienne à Paris, qui a été très importante. Leopardi, Natalia Gainsbourg, enfin tous ces auteurs sont mon imaginaire, plus encore que le cinéma.
Giochiamo.
Non lo so.
Al gioco della vita?
Sì, però io ce l'ho uffa di fare sempre il papà. Io voglio fare una persona che è metà maschio e metà femmina. C'ho i semi e c'ho anche il... Mi chiamo Lena Zopuntel. Vi piace il mio nome?
Sì, è molto bello.
Io mi chiamo Barbara Rossinato ed ho una bambina piccola piccola appena uscita dalla clinica.
Tanto, io non c'ho tempo per i bambini, devo andare a lavoro.
croire c'est trop lourd, on dépose chaque jour sans le dire un peu de nous dans un poème, une chanson, quelque chose de beau, de disponible, qui ne disparaîtra pas. Valeria Bruni-Tedeschi a déposé son Italie dans les poèmes de Leopardi, un peu de son adolescence littéraire dans Tchekhov ou Natalia Ginzburg. Aucun âge ne disparaît. On est tous là, on est toutes là, toutes nos vies. En studio, il doit y avoir 1000 Valeria, 7 ans, 8 ans, 23 ans, etc. Elle doit être là aussi, celle à qui, à 9 ans, on a dit « on va quitter l'Italie, c'est plus prudent, on part en France pour éviter un enlèvement, c'est l'époque des Brigades Rouges ». Valeria Bruni-Tedeschi met dans ses films les endroits où on a tout déposé. Elle les superpose avec la vie qui continue à côté. Un château, une maison, un objet, une chanson et des êtres humains. Leurs sentiments, leurs larmes, leur présent. Dans ses films, il y a des confessionnaux, au cas où certains secrets n'aient pas trouvé refuge. Valeria Bruni-Tedeschi est entrée dans un nouvel endroit pour un documentaire, un service gériatrie. On est à l'hôpital, ils ont plus de 80 ans, certains ne parlent plus, pas, ne se lèvent plus. Alors un chorégraphe arrive et la musique monte doucement. Tu me fais planer, pour un flirt avec toi, la vie en rose, pianza en mi. Les corps ont 90 ans mais tout revient. Soudain, on est dans une salle de bal ou dans ce studio idéal où tous les âges sont réunis. Il y a de la séduction, de la jalousie, des histoires anciennes. Dans le film, il y a la vie qu'on se fait à l'envers des chansons, de l'autre côté. Tout ce qui a été déposé par ces visagers. Une chanson, c'est plein de fantômes. C'est le lien avec l'absent. C'est notre côté désuet, un peu ringard parfois. Notre côté qui a envie de pleurer. Quand elle a gagné un prix d'interprétation, Valeria Bruni-Tedeschi a remercié dans un même souffle tous ceux qui ont reçu ce qu'elle a au fil du temps déposé. Les poètes italiens, sa psychanalyste et les hommes qui l'ont aimée. Dans son documentaire, une vieille dame dit « Danser, c'est le rêve de vivre encore comme ça. Mais manque de peau, ça peut pas être tous les jours comme ça. Manque de peau, ça ne dure pas. » Mais dans ce salon, avec ces jeunes gens de 90 ans, on pleure la famille, les enfants, mais on attend encore l'amour. La vie ressemble alors à une chanson. C'est notre côté désuet, amoureux, notre côté qui a envie de pleurer. Il y aura donc Valeria Bruni-Tedeschi, actrice, cinéaste, née à Turin, arrivée à Paris à l'âge de 9 ans en 73. Il y aura Yann Corédian, avec qui elle vient de co-réaliser ce film documentaire, une jeune fille de 90 ans. Ils ont suivi le chorégraphe Thierry Tunyang au service de gériatrie de l'hôpital Charles Foix d'Ivry, où il a animé un atelier avec des patients malades d'Alzheimer. À la musique, ce sera Juliette Armanet pour réhabiliter les sentiments. Son album s'appelle « Petit ami ». C'est une vie d'artiste sur France Culture et ça commence avec la voix de Federico Fellini.
Peut-être qu'il est plus aidé de les autres, de notre, parce que le type psychologique de l'artiste, il est toujours protégé de son curiosité enfantine. Et alors, s'il est un véritable type psychologique d'artiste, il a élevé dans son vie, il a cultivé une attitude de curiosité, de disponibilité, d'amour pour l'inconnu. Et sur le plan psychologique, ça c'est déjà une très grande protection pour marcher dans l'inconnu. Je peux dire que un artiste peut survivre avec beaucoup plus de facilité des autres types, parce que un artiste se va nourrir delle contraddizioni, dell'angoisse, e se va délivrer aussi en faisant des livres, des peintures, des films. Elle est toujours disponible. Vous savez, la création artistique, c'est une espèce de maladie. Et la maladie se passe avec la création. Alors, il a une nouvelle santé toujours. Je crois, dans mon cas, je crois que je suis le type psychologique de l'artiste. Ben, type psychologique de l'artiste, je l'ai pas dit. Il y a madame qui m'a expliqué. En France, vous ne devez pas dire artiste, parce que le pareil est un peu présomptueux, prétentieux. Je dis, mais je ne dis pas artiste dans le sens de poète. Je dis artiste pour dire un type psychologique très précis. Je ne peux pas dire avocat parlant de moi-même. Je dois dire je suis un artiste. On m'a dit, mais non, Federico, ça il n'est pas bien. Ça. Il donne une sensation que tu es orgueilleux. Mais je dis artiste sur le plan d'anagraphie. Et alors, je ne me rappelle plus de votre question.
Valeria Bruni-Tedeschi, est-ce que vous correspondez au profil psychologique de l'artiste comme il est décrit par Fellini ? Est-ce que vous faites une nouvelle santé avec la création à chaque fois ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je comprends ce qu'il dit. Effectivement, l'angoisse est très très grande, l'angoisse de la vie, je la trouve très... Elle me submerge et c'est vrai que quand je peux, quand j'arrive... C'est vrai que j'arrive avec mon travail à la traverser beaucoup mieux que si je n'avais pas mon travail. Effectivement, c'est... Je sais pas si oui, ça peut me faire un effet anxiolytique, ouais. Ouais.
Et qu'est-ce que vous leur devez à ces poètes italiens ?
D'être triste, d'être désespéré et d'en faire de l'or. Et voilà. Et d'être. D'avoir des fulgurances et de nous les communiquer.
Parce qu'au départ, vous aviez une passion pour la littérature, pour l'écriture.
Ouais, enfin à la base oui. À la base c'est quand même là où je me sens le plus proche de le plus dans ma cuisine intérieure. C'est avec les livres et avec l'écriture. Et après je trouve pas que j'écris très bien, donc j'aurais rêvé d'écrire, mais peut-être que on sait jamais. Peut-être qu'un jour j'arriverai à écrire un truc. Qui a un peu de sens, mais pour l'instant, j'ai trop honte de ce que j'écris. Mais bon, mais en tout cas, quand je lis, c'est là où je me ressource le plus. C'est plus en lisant que dans les autres arts. Après, maintenant, quand même, le cinéma et les films au cinéma, pas en DVD. Aller dans une salle et rentrer dans une salle et voir un film, ça me ressource aussi beaucoup. Mais c'est venu après. Au départ, il y avait plus la littérature et le théâtre.
Et pourquoi le théâtre ?
Le théâtre que j'étudiais au départ, il y a eu Tchekhov, c'est pas en le voyant, c'est en l'étudiant que j'ai découvert Tchekhov. Et après, le théâtre que j'ai... je suis rentrée dans un théâtre, parce que j'ai fait l'école de Lanterre au Théâtre des Amandiers, et c'est là que j'ai commencé mon travail de... voir qu'est-ce que c'était être acteur. Et voilà, mon métier, il est là. Il a commencé, c'est comme quelqu'un qui commence la cuisine dans une école de cuisine. Moi, mon métier, il a commencé au Théâtre des Amandiers. C'est là que... Et même si je fais mes propres films, que je réalise mes propres films, je reste une actrice qui fait ses films. Enfin, même si j'écris un jour, c'est quand même... Mon métier, désormais, pour toujours, mon identité, c'est quand même... C'est quand même de là que je prends mon inspiration, c'est de mon métier d'actrice, je crois.
Mais est-ce que par rapport à la lecture et l'écriture, le métier d'actrice, c'était une façon aussi d'être dans un collectif ?
Oui, oui, complètement. C'est exactement ça. En fait, je pense que c'est ça qui a fait que je n'ai pas pu rester dans les études et dans l'écriture et dans ce travail solitaire, c'est que j'avais désespérément besoin d'être avec d'autres personnes, que la solitude me pesait trop et que je la trouvais peut-être très créative, mais difficilement supportable. Donc je suis allée dans un cours de théâtre, même avant Nanterre, pour commencer, pour rencontrer des gens, en fait, pour être avec d'autres gens, pour travailler avec d'autres gens. Ouais.
Et à ce moment-là, quand vous êtes adolescente et que vous commencez le théâtre, est-ce que le lien à l'Italie, à votre pays, c'est à travers la littérature ? Qu'est-ce qui vous raccroche à l'Italie ?
Quand j'ai commencé le théâtre à Nanterre...
Quand vous êtes adolescente et que vous êtes en France ?
Non, quand j'étais adolescente, je ne faisais pas de théâtre. J'étais en France, j'étais à l'école italienne et Et je travaillais les textes, j'écrivais, je lisais, j'étudiais, justement, Leopardi. Enfin, voilà. C'est après, c'est en, quand j'ai commencé le théâtre, avec Chéreau et Pierre Roman. Non, là, il y avait... Mon lien avec l'Italie, c'est un peu distendu. Il n'y avait plus trop de liens. Et après, c'est revenu quand j'ai fait le film de Mimmo Calopresti, la Seconda Volta, en Italie, à Turin, dans ma ville, dans la ville d'où j'étais partie, sur un sujet qui était pour moi très important, c'est-à-dire les Brigades Rouges, et voilà, où je jouais moi-même une ex-terroriste. Donc, voilà, il y avait quelque chose qui me faisait beaucoup de sens, et là, mon travail d'actrice s'est relié à l'Italie, et au fait de jouer en italien, et ce lien-là, j'ai plus voulu le quitter depuis ce film-là, qui a été très très important pour moi, que j'ai fait à 30 ans, donc 10 ans après avoir commencé à jouer.
Et c'est à ce moment-là aussi que vous avez participé à l'écriture, non? Que l'écriture est revenue?
Oui, c'est peu après, avec Mimmo, j'ai participé un tout petit peu à son deuxième film, Mots d'amour. Et il m'a permis de voir que je pouvais aussi écrire des dialogues. Et après, j'ai commencé à écrire d'autres dialogues à moi et j'ai fait Il est plus facile pour un chameau. C'est venu peu à peu comme ça.
Je voudrais savoir ce que vous demandez de savoir faire ou de ne pas savoir faire à un comédien.
Je demande qu'il sache tout faire, idéalement, mais avec une naïveté et une ingénuité permanente. C'est-à-dire que un comédien, on demande toujours qu'il ait un monde, qu'il ait un univers et puis qu'il ait un secret, surtout. C'est-à-dire qu'un comédien qui n'a pas de secret, quelqu'un dont on voit tout de suite qui il est et ce qu'il est par le son de sa voix et par son visage, je veux dire, n'est pas une personne intéressante sur un plateau. Donc je demande à la fois ce mystère, je demande à la fois qu'il se donne lui, parce que finalement les gens viennent voir cela, il n'y a rien à faire. Je veux dire, les gens qui sont dans la salle ont envie qu'il y ait une sorte de don, comme ça, d'offre, c'est pareil, hein, l'offre et la demande, toujours. Et puis en même temps, c'est vrai que je demande que ces gens-là aient du métier, et une sorte de capacité, dextérité, comme ça, à user l'outil du comédien, c'est-à-dire une dextérité à pouvoir parler haut, fort, pas fort. Ce que j'ai découvert en tout cas, c'est qu'à le refaire, c'est un métier très contraignant. Et de le faire là, tous les soirs, me redonne encore beaucoup d'admiration pour eux.
Alors,
parce que je sais que je n'en ferai pas ma vie, moi, par exemple.
Ah bon?
Non, parce que d'abord, c'est beaucoup plus fatigant que de mettre en scène. Et même si je suis un travailleur acharné, mais si vous voulez, quand vous mettez en scène, vous vous nourrissez des autres, et quand je ressors d'une répétition épuisante, je suis plus plein d'énergie qu'avant. Quand je ressors du plateau, je suis tout simplement vidé.
C'était la voix de Patrice Chéreau. Valéria Bonet-Tedeschi, quand vous êtes entrée à l'école des Amandiers, je crois qu'on a posé cette question: qui a envie ici de devenir metteur en scène? Et là, vous avez dit non, c'était pas encore
pas du tout
dans votre idée.
Pas du tout. C'était pas du tout dans mon élan, pas du tout dans mon idée. Non, pas du tout. J'avais eu envie d'écrire quand je faisais mes études, mais après, quand j'ai voulu être actrice, c'était vraiment, vraiment le mouvement de l'acteur. C'était totalement ça. Et pendant des années, je n'ai fait que étudier, chercher comment, justement, tout ce qu'il dit, Patrice, de comment à la fois rester naïve et rester sans savoir et à la fois savoir. C'est ça, l'acteur. C'est à la fois, il faut un peu savoir utiliser il faut savoir utiliser son instrument et à la fois, il faut ne rien savoir. Toujours oublier ce qu'on sait. Et donc j'ai essayé. Et après, c'est que quand j'ai commencé à écrire et quand j'avais des scènes, c'est en parlant avec Mimmo Calopresti, qui était avec qui j'étais à l'époque, et avec Noémie Lvovsky, qui m'ont dit tous les deux: mais non, c'est toi qui dois faire ce film. Mais ça me semblait vraiment une idée saugrenue. Et après, je l'ai fait et j'ai pris goût. Mais je pensais pas avant du tout.
Et est-ce qu'en rencontrant Patrice Chéreau, c'est à ce moment-là aussi où Tchekhov a pris une importance particulière dans votre vie d'actrice?
Oui, c'est avec lui, complètement, parce qu'on a fait un film, Hôtel de France, tiré de Platonov, de Tchekhov. Et après, on a monté la pièce Platonov à Avignon. Et c'est les fondements de mon travail de complètement. C'est comme mon enfance artistique. C'est Patrice, c'est mon père. Pour moi, c'est mon père, c'est ma référence paternelle artistiquement. Et il me manque énormément quand j'entends sa pensée. C'est un vide. C'est comme ça, c'est la vie. Et après, il y a eu aussi Pierre Roman, avec qui on a monté une chose de Tchekhov, qui a été aussi... Oui, c'était l'époque de Nanterre, c'était Tchekhov, beaucoup.
Et en 1987, vous aviez 23 ans et vous aviez cette voix-là.
Moi, j'ai les idées très, très floues. Déjà, je vous dis ça parce que je ne sais pas répondre comme ça aux questions. Alors, qu'est-ce que c'est la première question ?
C'est celle que vous voulez, vous le prenez comme vous voulez. Par exemple, est-ce que dans un coin de votre tête, il y a l'idée qu'un jour vous vous marierez ? Est-ce que vous avez besoin, dans votre relation amoureuse, au fond, de cette sorte de sécurité de présence que peut-être le mariage ?
Le mariage, je ne vois pas ça comme une sécurité de présence. Je vois ça uniquement comme un bout de papier pour l'enfant, si jamais on décide d'avoir des enfants, et puis c'est tout.
Sinon, ça ne sert à rien.
Pas pour moi.
Mmh. Oui, mais c'est de vous qu'il s'agit. Pour votre part, vous souhaitez plutôt une relation paisible ou une passion ?
Ah, une passion.
Ah, c'est pas évident, hein ? C'est pour ça que je vous le demande. Une passion plutôt.
Une passion qui dure, oui.
Ah oui, d'accord. Est-ce que vous vous estimez être une grande amoureuse ? Je m'explique. Est-ce que vous avez besoin de l'amour pour fonctionner dans la vie ?
Ah oui, de l'amour d'un homme, de l'amour d'une chose, de l'amour...
Oui, non, mais moi, je parle d'un homme, oui.
De toute façon, même dans les moments où je n'étais pas amoureuse, je m'inventais des amours. Donc, oui, j'ai besoin de ça. Sinon, je l'invente. Si ce n'est pas là, je l'invente.
Bien. Par exemple, pardonnez-moi l'indiscrétion, vous cochez la case inutile... Êtes-vous amoureuse actuellement, case 1 ? Ne l'êtes-vous pas, case 2 ?
Oh, mais c'est pas des questions à dire à la télé, ça.
Les questions, si. Les réponses, ça regarde que vous, hein.
C'est pas des réponses à donner à la télé.
Alors, vous ne les donnerez pas. Est-ce que vous êtes tout à fait capable de dire « je t'aime » ou « j'ai besoin de toi » ou « je veux vivre avec toi » ?
Ça m'est déjà arrivé, oui.
Demain, vous leur diriez sans problème ?
Demain ?
Vous leur rediriez sans problème. Enfin, ou après-demain, hein, si ça vous arrange.
Oui, avec des problèmes, j'espère que je vais le redire.
C'est
oui.
Difficile à dire.
C'est pas facile.
Vous avez les mêmes réponses aujourd'hui, en tout cas.
Oui, c'est vrai, je suis toujours aussi floue.
Vous répondiez en même temps. Oui, la passion. Et
Non, mais là, je répondais ce que je sais. J'étais sûre que j'allais répondre.
Vous vous souvenez de ça, d'accord.
Ah, non, non,
parce
non.
que les réponses seraient différentes aujourd'hui.
Ouais, j'aimerais bien me marier aujourd'hui.
Et est-ce que si l'amour n'est pas là, vous l'inventez ? Est-ce qu'il y a toujours cette idée-là du jeu ?
Ouais, ou je m'en souviens.
Est-ce que vous parlez beaucoup de ce mot confession pour parler de votre travail, de votre écriture, du jeu aussi d'acteur ? Est-ce qu'il est toujours aussi présent ?
Oui, je pense que c'est une professeure de théâtre que j'ai eue, très américaine, qui disait que chaque acteur a un endroit où il rebondit. C'est un endroit sur lequel... très profond sur lequel il rebondit. Par exemple, elle nous donnait l'exemple d'Al Pacino qui rebondissait sur la colère, que sûrement à cause de son histoire d'enfance, qu'il a trouvé sa mère morte. Enfin bon, il y a une colère. En tout cas, on sent dans son travail que c'est sur la colère qu'il arrive à rebondir et qu'il c'est là où il s'agrippe pour arriver au plus haut de l'intensité de ses émotions, c'est sur la colère. Et c'est la colère qui fait qu'il est Al Pacino, disons. En tout cas, c'est son émotion principale, c'est la couleur principale du peintre Al Pacino. Et elle nous demandait à chacun de choisir, de dire quelle était l'émotion sur laquelle on rebondissait principalement. Et je pense que la mienne est le besoin de l'aveu, d'avouer, de confesser. Je pense ça et je pense que ça, c'est après, c'est pour toujours, hein, ça ne change pas.
Et ça, c'est très lié, vous parlez de cette prof américaine, à la méthode de Lee Strasberg.
Oui,
cette méthode où on va chercher en soi ou dans son histoire des émotions particulières, est-ce que ça c'est toujours présent quand vous jouez?
C'est extraordinaire. C'est ça aussi. C'est pour... enfin, quand on connaît c'est la méthode, c'est quand même une. Ça a été une chose incroyable, une invention, des codes, un langage, une façon, des exercices, des choses auxquelles se raccrocher quand on ne sait plus comment travailler. C'est extraordinaire, la méthode. Moi, j'ai eu Susan Batson et Geraldine Baron, qui étaient deux professeurs américaines. Susan, c'est quelqu'un de très important dans mon travail. Même si je ne la vois pas souvent, parfois, je l'invente devant moi et je lui parle en anglais. Je parle très mal anglais, mais je lui parle de mes problèmes de travail et je discute avec Susan Batson imaginaire et
ça
faudrait que je la paye, que je, même quand je fais ça, il faudrait que je lui envoie un chèque pour payer.
Maintenant qu'elle le sait,
je lui ai dit.
Juliette Armanet, ce serait quoi votre sentiment de départ à vous?
C'est-à-dire
D'écriture, si Al Pacino c'est la colère, si Valeria Bruni Tedeschi c'est la confession. Le besoin de confession ou d'aveu. Le sentiment de départ à...
C'est le... sans doute la mélancolie, mais au sens pas malheureux, c'est-à-dire juste de contempler ce qu'on a pu être, de prendre le temps de regarder qui on a pu être. Ouais, ça doit être ça. Les émotions, de retraverser les émotions qui sont allées trop vite, pour les savourer un peu. Ouais.
Parfois, on a l'impression que les émotions, c'est plus à la mode. Les sentiments, c'est plus l'époque, plus le moment. Juliette Armanet réhabilite les sentiments humains, ceux qui s'épanchent, ceux qui prennent la place et ceux qui soulèvent. Elle chante l'homme de sa vie, elle chante l'accident quand il faut se quitter, l'attente, l'été, Alexandre ou le manque d'amour. Son album s'appelle Petite Amie et le premier morceau...
L'amour en solitaire, voilà. Je suis Juliette Armanet, vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
Je ramasse mon coquillage fragile. solo dans ma gueule. Je peux plus voir, te voir dans toutes ces gueules.
Vous entendez la musique? Est-ce que ça vous aide, la musique?
Pas pour le moment.
Pas pour le moment.
Pas.
Vous entendez pas quand on danse?
Non.
Vous restez dans la danse, tous les deux?
Oui, exactement.
On pourrait travailler en silence, tous les deux aussi?
Oui.
On pourrait danser en silence, c'est pas grave pour vous?
Oui.
Vous aimez le silence?
Oui, beaucoup.
Beaucoup?
Oui.
C'est quoi le silence pour vous?
C'est difficile à concevoir.
Est-ce qu'il peut y avoir du silence entre vous et moi?
Ah oui, certainement.
Est-ce que vous pouvez me donner un peu de votre silence et moi je vous donne un peu de mon silence?
Non, pas du tout, pas le mien.
Pourquoi pas le vôtre?
Vous.
Pourquoi pas le vôtre pour moi?
Je sais pas. Je ne suis pas née dans un même milieu comme ça.
Donc, y a pas, vous ne me donnez pas de votre silence?
Oh, je pourrais, à la longue.
À la longue. Il faut du temps pour donner son silence
oui,
à l'autre.
Oui, oui, oui.
Oui, vous avez raison.
Et tout ça, c'est dans la magie.
C'est de la magie.
Oui.
Oui, c'est de la magie. Je suis d'accord.
Au début, elle ne marche pas, elle ne dit rien, et puis petit à petit, Blanche, elle danse, elle tombe même peut-être amoureuse de Thierry, où il anime un atelier de danse avec des patients malades d'Alzheimer, c'est Thierry Tionyang, le chorégraphe. Yann Corridian, avec Valeria Bruni-Tedeschi, vous avez filmé une histoire d'amour.
Ah oui.
Sans le savoir au départ.
Ah oui, oui, comme toujours. Enfin oui, on a filmé une vraie histoire d'amour, une vraie histoire d'amour.
On a vu, oui, dans les règles des histoires d'amour.
On a vu quelqu'un, enfin, on a vu quelqu'un tomber amoureux sous nos yeux. Enfin moi, c'était la première fois que je voyais ça. Vraiment, enfin, je veux dire, vraiment l'amour naître dans un regard, chez cette femme, on a vraiment vu l'amour se arriver.
Ce qui est assez fou, c'est quand le film commence, Blanche, ben voilà, on comprend qu'elle, comme d'autres, ne font pas grand-chose, vont dans leur chambre, parlent peu, échangent peu, et puis petit à petit, avec cette situation presque de bal, se reconstituent toutes les... La séduction, tous les liens, les regards, y a de la jalousie, tout à coup, y a des phrases qu'on pourrait entendre dans un bal d'adolescents. Y a des Blanches justement qui disent « mais les autres, elles m'en veulent parce que je suis tout le temps collée à toi ». C'est étonnant comme tout à coup, toutes ces émotions, tout ce vocabulaire, il revient.
Oui, oui, tout ce vocabulaire revient. Enfin, déjà, la parole revient avant tout, parce que Blanche, vraiment, au départ, c'est une femme qui ne marche presque pas seule, enfin, qui est aidée tout le temps. Et à partir du moment où Thierry arrive devant elle, à partir du moment où elle tombe amoureuse, elle se redresse, elle se lève, elle donne sa canne à une voisine, elle se souvient de son prénom alors qu'elle ne s'en souvenait pas, elle recommence à parler, sa pensée devient plus claire, plus agile, plus vive. Et effectivement, après, l'amour inonde tout ce service. Il y a de l'amour partout, tout le temps, enfin, comme dans la vie. Enfin, sauf que là, oui, oui, c'est vraiment une renaissance pour elle d'abord, et cette renaissance devient collective.
Est-ce que vous aviez une appréhension tous les deux avant de filmer, de vous approcher de... Bah, ces visages et ces corps qu'on n'a pas l'habitude d'approcher comme ça.
Je pense avant d'aller dans l'hôpital, on avait une appréhension. Mais personnellement, une fois que je suis rentrée dans l'hôpital la première fois pour qu'on décide si on allait faire le film ou pas et qu'on voit effectivement comment on se sentait, si on se sentait trop voyeur, si on se sentait trop extérieur ou accepté ou légitime... Ben, moi, je me suis sentie tout de suite faire partie de ce monde, être tous dans le même bateau. Je n'ai pas senti, eux, c'est les gens âgés, malades, et moi, je suis jeune et en bonne santé. Je me suis dit, on est tous dans ce bateau-là, voilà, de façon différente. Mais, et puis, il y a aussi les aides-soignants, les infirmiers, les médecins qui... On voulait vraiment faire... On ne savait pas qu'il allait se passer... cette chose incroyable, ce miracle. Donc on avait, nous, dans l'idée de faire un documentaire, de faire une chronique d'un service, mais en filmant vraiment tout le monde, pas que les patients. Et très vite, je me suis pas sentie différente de quand on filme des acteurs ou enfin des gens d'un autre âge. Ou, moi, je me sens plutôt bien avec les personnes âgées. Ouais.
Moi, c'était très, je trouvais ça très violent au début. Enfin, j'ai vraiment eu une première sensation de, qui n'a rien à voir avec moi, contre eux, ou leur vieillesse. Enfin, c'est vraiment, je trouvais que c'était, voilà, l'hôpital, je trouve ça dur, ça. Et puis, j'ai pas un rapport à, j'ai pas eu de grands-parents autour de moi. Enfin, je veux dire, j'ai pas connu de personnes âgées. Mon père est mort, il avait 57 ans. Enfin, j'avais vraiment un rapport à l'âge, au grand âge. C'était l'inconnu totalement. Je trouvais ça très âpre. Après, il y a une des patientes qui m'a donné la main, qui s'appelle Madame Chiche, et qui m'a dit ça va 200 fois. Et tout s'est bien passé. Enfin, je veux dire, mais la première sensation, vraiment, si je suis très honnête, ça a été, je trouve que ça pue. Enfin, je veux dire, l'hôpital, c'est un endroit de.
Dur,
quoi. C'est vraiment. Après, évidemment, ça passe en un instant, mais oui, il y a une première sensation un peu de. Choc.
Juliette Armanet, dans une de vos nombreuses vies, il y en a une où vous avez réalisé des documentaires. Et un sur votre grand-mère,
oui,
qui était aussi atteinte d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec elle ?
Bah, en fait, elle comptait beaucoup pour moi. Et j'ai vu ce moment où elle s'appelait Paulette. Et j'ai vu ce moment où elle s'est mise à perdre son prénom, son identité, etc. Et c'était, elle disait Fourchette à la place de Bonjour. Enfin. Mais il restait un bastion de liberté, de conscience de soi, c'était la musique. Et quand je lui disais coucou, je suis ta petite fille, elle me disait mais non, je suis pas vieille et puis je te connais pas. Mais quand je lui jouais du Chopin ou quoi, si je faisais une fausse note, je me faisais engueuler. Et du coup, je me suis dit mais c'est bizarre que ça soit resté ce territoire-là, soit resté son territoire de conscience. Et voilà, et je pense que pour apprivoiser cette maladie pour les proches, parce qu'elle est très dure, j'ai fait un film sur elle. C'était pas facile de la filmer, et en même temps elle s'est révélée, elle était très drôle. Et voilà, et puis je trouve qu'il y a une fantaisie dans l'Alzheimer. Il y a énormément je pense qu'il y a un état un peu d'exaltation étrange qui est pas très politiquement correct, mais qui est là, et j'avais envie de le filmer aussi.
Il y avait aussi une histoire d'amour.
Oui, parce que quand elle est rentrée dans une maison, c'était trop difficile de s'occuper d'elle tout le temps. Et il se trouve qu'elle est rentrée dans une maison où elle a rencontré un homme qui lui aussi avait une maladie d'Alzheimer. Et ils sont tombés complètement amoureux. Ils étaient persuadés qu'ils étaient dans cette maison, que c'était la leur depuis 60 ans. Et à chaque fois que je venais la voir, elle me disait « Écoute chérie, j'ai beaucoup de monde à la maison, je te garde pas très longtemps. » Et elle déambulait avec ce monsieur, tous les deux, dans la maison de retraite. Sauf que mon grand-père est devenu fou de tristesse. Et il a déboulé dans la maison de retraite avec le certificat de mariage en me disant « Mais c'est ma femme !»
et on les a séparés d'étage. Et le jour d'après, ils ne se reconnaissaient plus à la cantine. C'est bizarre.
Waouh.
Mais ils s'aimaient bien, je crois. Et ils étaient persuadés que cette maison de retraite était leur château. C'est drôle.
Mais cet espace du jeu, de l'imaginaire, il est très présent dans le film aussi. Tout à coup, cet espace-là, il est aussi exalté parce que Thierry Tionyang est là, parce qu'il y a cet espace de liberté.
Ça, on avait ça aussi. On n'est pas rentré juste et filmé. On avait cette chose, ce filtre qui est l'atelier de danse et le travail de chorégraphie de Thierry qui nous donnait une légitimité dans le fait d'être là, qui nous donnait une raison et une loupe pour regarder ce monde. Et je pense qu'on se serait senti beaucoup plus voyeur. Enfin, je pense qu'on n'aurait pas fait le documentaire, le film, si on n'avait pas eu cette bonne raison. Bonjour. Bonjour. Ça va?
Oui, j'étais dans la lune.
Vous avez bien dormi?
Oh oui, j'ai bien dormi.
Ouais, ça se voit.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Vous vous souvenez, on était là hier.
Oui.
Vous vous souvenez de moi?
C'est bon, le sommeil.
Oui, ça fait du bien.
C'est précieux.
Oui.
Mais là, maintenant, je vieillis, alors ça a moins d'intérêt. Je vais tomber en décrépitude.
Oh non, il ne faut pas dire ça.
Oh. Il y aura quelques plis par-ci, par-là.
Oui, ça, tout le monde.
Des faux plis.
Vous vous appelez comment?
Gisèle.
Gisèle comment?
Delcroix. Je porte ma croix. Non, ça va. Faut pas se plaindre inutilement, non. J'ai de bons parents. Je suis fille unique. J'aurais aimé avoir un frère. Mais il aurait peut-être été chinois, méchant. Les garçons, c'est rude. C'est du beefsteak.
Pourquoi chinois? C'est dur. Pourquoi chinois? Chinois?
Non.
Vous avez des chinois?
Non, j'ai dit, c'était un garçon.
Oui.
Ah, je dis chinois.
Oh.
Ah oui. Oh, un petit chinois. C'est mignon, les petits chinois. Enfin, je pense. Les petits chinois, c'est mignon.
Oui.
Hein? On les voit toujours dans les expositions, partout. Alors, ils doivent être gentils. Elle a souffert de ne pas avoir de petits-enfants parce que je suis divorcée. Ça, c'est triste. Ça fait 4 ans maintenant que je suis divorcée. Le chagrin de maman. Elle a un chagrin. Elle sépare mieux, je crois. Je suis une divorcée.
Mais c'est pas grave.
Un autre extrait du film Une jeune fille de 90 ans, Valeria Bruni-Tedeschi, où on entend tout ce que ça peut donner comme conversation surréaliste parfois.
Surréaliste.
Et il y a des choses qui sortent très fortes, comme tout à coup. Beaucoup liées à des regrets familiaux.
Beaucoup.
D'avoir eu ou pas des enfants, d'avoir quitté quelqu'un.
Beaucoup. Beaucoup de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, beaucoup de femmes qui parlent de ça, beaucoup. Beaucoup de femmes qui ont divorcé, qui se sont séparées, qui n'ont pas eu d'enfants. C'est étrange, ça. Et est-ce qu'ils sont restés bloqués sur un moment, un ratage de leur vie? Et parfois, qui ont l'impression d'avoir l'âge de ce ratage.
Donc, parce que dans la suite, là, justement, elle dit,
j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans en septembre. Alors, voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un maintenant. Mais bon, alors, voilà, ce qu'il y a de fou aussi, c'est comme c'est beau ce qu'ils disent là. C'est de la littérature, c'est magnifique. Elle, voilà, c'est un texte surréaliste.
Tout à l'heure, on entendait Blanche qui parlait du silence. Blanche,
c'était magnifique. Edmond, on dirait du Tchekhov, c'est magnifique. C'est vraiment quand la littérature arrive de comme ça, des conversations. Le prix Nobel, comment s'appelle l'écrivaine russe qui a eu le prix Nobel?
Svetlana Alexievitch.
Voilà, elle écrit beaucoup comme ça. Elle écrit elle enregistre les gens et puis elle écrit à partir de vraiment des conversations, ce qu'on appelle les conversations de cuisine. Et là, les conversations sont évidemment d'un niveau de poésie, parce que comme vous disiez, c'est une maladie. C'est une maladie très poétique. C'est terrible à dire, très douloureuse, mais aussi très poétique, pleine d'humour, pleine d'insolence, pleine d'incorrection.
Est-ce qu'on peut écouter un nouveau morceau, Juliette Armanet?
Ah,
c'est
oui,
un peu sans transition.
D'accord.
Ça va?
Oui, oui, ça va. Ça m'a remué plein de choses. Mais c'est bien, tant mieux.
Ce nouveau morceau s'appelle Alexandre.
Alexandre, je donnerai toute ma vie pour une cendre, rien qu'une cendre de ta Lucky. Ah, Alexandre, tu es ma Californie, tes mots tendres nagent dans mon bikini. T'es mon blasphème, ma plus belle insomnie. Mais te dire je t'aime, je sais, mais t'interdis. Ta peau est trop dure, tu es mon Dieu. Alexandre, à tout à toi je dis oui, car à tout prendre, je préfère l'enfer au paradis. Alexandre, fais de moi ton Alexandrie, tu verras je suis ta. Comme la Californie. Oh, t'es mon blasphème, ma plus belle insomnie. Mais te dire je t'aime, je sais, mais t'interdis. Ta peau est trop dure.
Je me rends compte que mon activité consiste à redonner aux émotions leur lettre de noblesse. En effet, depuis le siècle des Lumières, mais peut-être même depuis la Grèce antique, les émotions ont souffert. L'idée, ça a été qu'il faut se défaire des émotions, qu'elles sont dangereuses, elles sont associées à tout ce qui est corporel et à tout ce qui est féminin. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a une révolution en cours dans certains domaines, notamment dans le domaine des neurosciences, Et dans cette révolution, il a fallu inclure le rôle des émotions dans le fonctionnement de la mémoire, dans toutes les activités de la conscience, parce que les émotions nous guident en avant. Si nous n'avions pas de sentiments conscients, nous ne pourrions pas orienter nos vies de quelque façon que ce soit. Et une absence de sensibilité émotionnelle, une absence de ressenti émotionnel entre dans le domaine du pathologique.
C'était la voix de l'auteure américaine Cyrus Vett qui était traduite. Est-ce que vous pensez, Valeria Bruni-Tedeschi, qu'il faut aussi, comme elle le pense, réhabiliter les émotions ?
Oui. Oui, je pense qu'il faut les accepter. Absolument. Accepter nos faiblesses, nos émotions, nos fragilités et apprendre à enseigner aux enfants que c'est pas honteux d'être timide, d'avoir peur, d'être amoureux, de se sentir bête, de pas savoir, de se tromper. Voilà, notre fragilité, je pense qu'elle, si elle est acceptée, si on l'accepte, si on nous apprend qu'elle est la bienvenue, je pense qu'elle devient une force.
Dans un de vos derniers films, Folle de joie, pour lequel vous avez eu un prix d'interprétation en Italie, vous jouez une femme qui est mentalement justement un peu dérangée, qui n'a plus de surmoi.
Ouais.
Et qui vit.
C'est encore autre chose.
C'est encore autre chose, mais qui du coup vit des moments d'intensité et de joie pure, qui se permet ça.
Ouais, de douleur, de joie, de rage. Elle a plus. Moi, j'ai travaillé comme ça. En tout cas, je me suis dit bon, ben voilà. Au lieu d'aller faire des consultations, d'aller demander aux personnes malades et aux médecins comment, je me suis dit je vais demander à mon policier intérieur, donc le surmoi, d'aller en vacances pendant le temps du tournage et je vais voir ce qui se passe. Donc j'ai plutôt travaillé avec ma propre folie, qui n'est pas vraiment une folie, qui est, voilà, moi sans policier. Et ça a donné ça.
Et c'était agréable ?
Très, très, très agréable. Dangereux aussi, parce que ça fait qu'on peut se prendre la violence des autres, parce que comme on n'est pas du tout... On ne peut pas vivre en société sans hypocrisie. La base de la société, c'est l'hypocrisie. Donc là, il n'y a plus d'hypocrisie. Il n'y a que... voilà, les émotions, les pensées débridées, sans inhibition. Et donc c'est très jouissif, parce qu'on se sent tout puissant. Et en même temps, on est très en danger, parce que les gens autour ne supportent pas, donc ils vous agressent, ils vous violentent, enfin voilà, ça ne fonctionne pas avec la société. Donc on se fait mal, on a des blessures, on ne peut pas vivre comme ça. Mais c'était très, ouais, c'était très excitant, un tournage, un film très important pour moi.
Je crois que c'est François Ozon qui vous avait dit « Je te donne ce rôle si tu acceptes d'être belle ».
Ça, c'est encore autre chose, ouais.
C'est-à-dire aussi d'être heureuse, peut-être épanouie, de ne pas se cacher.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que quelqu'un m'a dit « Mais t'as le droit d'être belle ». Et même, c'est pas ta droit, t'es payée pour ça. Et ça, vraiment, c'était une nouveauté. Et donc, comme j'étais payée pour ça, et que, surtout, que c'était... J'avais dit, ok, je fais ce travail. C'est comme s'il m'avait dit, tu fais ce film, mais t'apprends le crawl. Alors là, tu fais ce film, mais tu te donnes le droit d'être belle. Donc, j'étais obligée. Et du coup, c'était... Enfin voilà, c'était ma responsabilité professionnelle était en jeu, et donc je me suis débrouillée pour ne pas me cacher.
Et pourquoi avant ?
Et après aussi. Non, mais je sais pas. C'est des choses d'enfance, des choses de, je sais pas, liées à, je sais pas à quoi, des complexes, des choses. Ça ne veut pas dire que je me sens toujours horrible, hein, mais ça veut dire qu'à la base, il y a une chose de... un manque de confiance, quelque part, un endroit comme ça, qui fait que je suis un peu tordue.
Et vous êtes nostalgique de quoi, aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes nostalgique ?
Nostalgique. Mmh. Mais je suis tout le temps nostalgique, même de hier. Hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Hier, c'était doré. Hier, c'était le paradis perdu. J'ai toujours été nostalgique. À 16 ans, j'étais nostalgique de mes 15 ans. Donc, imaginez-vous maintenant, je suis nostalgique de ma vie, de ma jeunesse, de mes amours, de... Je suis profondément nostalgique.
Et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, avant tout, comme sentiment, comme façon d'être, d'avancer ?
Plein de choses, ça dépend. Il y a chaque, enfin, ça dépend des périodes. Il y a, parfois, je me dis que juste la joie de vivre. Juste, bon, c'est une grande chose, hein, mais ouais, de se réveiller le matin gai, d'être content d'avoir cette journée pour s'émerveiller, pour jouer, pour vivre, pour étudier. Voilà, je sais pas, je crois que oui, la gaieté, l'allégresse.
Puisqu'on a commencé par un chant de Leopardi, est-ce qu'on peut finir avec Sylvia,
ouais.
Un autre.
C'est long, hein. C'est un petit bout. Je vais faire juste deux strophes. Mais c'est triste parce qu'après, moi, je vais pas le faire en entier. Mais après, en fait, c'est. Elle est morte jeune, donc Sylvia, c'est un de ses amours qui est morte jeune. À Sylvia. Sylvia, remembre ancora. Quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea, negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor che all'opre femminile intenta sedevi, assai contenta, di quel vago avvenire che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno.
Avant la nuit, je dis merci à Inès Debruyne, Lucie Spindler, merci à Lionel Quentin pour la réalisation, à la technique, Pascal Bénard et Stéphane Touvenin.